Ok, merci, bonjour. Donc Youri Maignan, je suis très vite, hein, je suis enseignant, professeur des écoles, et j'ai dirigé le CAREP de Dijon, CAREP, Centre Académique de Ressources pour l'Éducation Prioritaire, pendant une dizaine d'années, et je suis maintenant doctorant en sciences de l'éducation, à la fois à l'équipe de didactique professionnelle de Dijon et au CNAM avec l'équipe de clinique de l'activité. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, c'est une présentation d'une formation et sur laquelle on va se mettre à travailler ensemble. Alors, à travailler sur quoi? La thématique est du stage, hein, c'est la ressource vidéo peut-elle être, enfin la vidéo peut-elle être une ressource pour la formation? Nous avons donc mené une formation dans laquelle nous avons utilisé la vidéo, et on l'a utilisée d'une certaine manière, entre autres pour provoquer des disputes professionnelles entre les stagiaires. À cette occasion, donc on va rentrer dans le détail, hein, mais moi ce que je vous propose à partir de cela, c'est de rentrer sur une réflexion je sais pas si c'était complètement prévu, mais en tout cas c'est servi sur un plateau pour moi, qui fait exactement suite à vos échanges de la première partie de la matinée, puisqu'il s'agit de s'interroger avec l'usage de la vidéo en formation. Dans un dispositif que je vais vous préciser, quel est le rapport entre l'activité de formation en formation et l'activité professionnelle? Donc je reprends le débat, hein, je poursuis le débat qui s'est initié tout à l'heure. Donc voilà, ça va être ça qui va nous intéresser, enfin que je vous propose de travailler, et je vous propose de le travailler à travers une analyse d'un produit de la formation, mais qui est aussi un instrument de la, donc qui est un produit de la formation puisque ça a été produit au cours de la formation, mais on l'a aussi utilisé comme un instrument de formation dans la suite de la formation. Donc voilà, c'est ce matériau-là que je vous propose que l'on travaille ensemble. Donc je vous ferai une petite présentation de la formation quand même pour que vous sachiez un petit peu dans quel univers de formation et dans quelle conception de formation on a travaillé. Nous travaillerons, donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous soyez par petits groupes, sur des verbatims. Et puis on essaiera ensuite de voir un petit peu quels sont les rapports entre les activités de formation et l'activité professionnelle à travers ces outils-là. Et puis on essaiera de voir comment ça peut être un outil pour la formation ou pas. Et puis, je vous dirai en dernier, et sans doute cet après-midi, sur quoi nous sommes appuyés pour imaginer cette formation et la conduire. C'est-à-dire sur quoi, sur quel champ conceptuel. Hein. Voilà. Alors, la formation T2, c'est une formation qui fait partie... qui fait encore partie dans les textes en tout cas, de la formation initiale continuée, vous savez, les néo-titulaires, après avoir reçu une formation initiale, ont droit à quatre semaines de formation en première année, puis deux semaines en deuxième année. Bon, la première année était complètement occupée par un dispositif institutionnel de formation. La deuxième année, dans notre académie, était vacant. Il n'y avait pas de formateur, donc on nous a proposé de le prendre et d'assurer cela. On n'a pas utilisé les deux semaines de formation. C'est une formation qui a duré donc six jours effectifs, sur l'ensemble de l'année. Filé sur l'ensemble de l'année, à peu près un par mois, un mois et demi, une journée tout un mois et demi. C'est une formation donc qui s'adressait à tous les néo-titulaires PLC-PLP, d'accord, de l'académie. Il y en a sur l'académie Dijon, il y en avait 150, il y en a un peu moins d'une trentaine qui se sont inscrits à cette formation. Donc pluridisciplinaire, les personnes participantes venaient de disciplines différentes et sur l'ensemble de l'académie. Donc nous avons commencé à 28, nous avons fini à 14. Ça pourrait être aussi une de nos interrogations. On ne sait pas forcément spécifique à cette formation-là, mais il y a des formes d'érosion qui sont interrogantes. Alors l'objectif de la formation était de tenir l'attention, en deux mots, attention, entre les outillés pour agir maintenant. Ce sont tout de même, s'ils ont un an d'expérience, ce sont quand même des néo-titulaires. Hein, donc agir malgré tout, tout de suite, les accompagner là-dedans, et en même temps, de construire une expérience d'appropriation du métier. C'est-à-dire que comment on peut, en début de carrière, se projeter dans, non pas dans le métier, mais dans une manière d'approcher le métier. Voilà, je le dis rapidement, hein, parce que je voudrais que ce matin, on aille vite sur les sur le travail commun. Donc je vous fais une présentation très rapide, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Tout de même, un tout petit mot, c'est écrit peut-être en petit, je ne sais pas si vous voyez en bas, un petit mot de la conception de la formation, même si j'y reviendrai ensuite. 4 phases, donc sur 6 jours, 2 jours à peu près, où on a, avec le groupe, tenté de créer les conditions d'un retournement de l'observation, c'est-à-dire que, alors que d'habitude, ce sont les extérieurs qui observent celui qui fait, là, on a essayé de créer les conditions pour que les collègues imaginent possible de pouvoir se regarder et en faire quelque chose en formation. Donc 2 jours, on a utilisé 2 jours pour ça. Ensuite, il y a eu une prise de traces d'activité sous forme de vidéo, puis des autoconfrontations simples, et des autoconfrontations croisées. Alors, je ne sais pas si ça a été un peu précisé ou pas. J'y reviendrai pour l'étayage scientifique, simplement d'un point de vue technique. Hein. L'autoconfrontation simple pardon, consiste à commenter sous la forme que tu as précisé, c'est-à-dire en libre déroulement, voire même en retour arrière, de consulter donc la vidéo de sa propre séance et de la commenter en présence, alors dans la clinique de l'activité, c'est en présence d'un chercheur, d'un intervenant chercheur, là c'est en présence d'un formateur. Donc ça c'est l'autoconfrontation simple. Puis l'autoconfrontation croisée, il avait été demandé à ce que les stagiaires forment des binômes ou des trinômes. On a fait un petit peu de façon souple. Et ensuite, chacun, enfin à deux, plus le formateur, chacun regarde la séance, enfin chacun, les deux, pardon, regardent la séance de chacun des deux stagiaires. Oui. C'est-à-dire, concrètement, nous sommes 3, le formateur et 2 stagiaires, qui regardons d'abord la séance de l'une ou de l'un, puis ensuite la séance de l'autre. D'accord ? Et pareil, on commente et on discute sur ce qui s'est passé. Donc ça a été, je dirais, la deuxième phase de la formation. La troisième phase, ça a été une exploitation de ces verbatims, c'est-à-dire que ce qu'on va vous donner, ça a été donné aux stagiaires dans cette troisième phase, pour qu'ils le travaillent là non plus à deux, mais qu'on le travaille en groupe, en sous-groupe, et puis en grand groupe, avec l'idée d'utiliser ce qui a pu se dire sur la vidéo pour alimenter des controverses professionnelles et des représentations de ces controverses collectives. Et puis l'idée, puisque c'était de se dire aussi, on va pas seulement s'outiller pour agir tout de suite, mais aussi s'outiller pour essayer de rentrer dans une appropriation du métier, l'idée a été de se dire, il faut qu'on se confronte entre nous, entre néo-titulaires, entre débutants, mais il serait intéressant, et un des stagiaires nous l'a demandé dès la première séance, on l'avait un peu anticipé, d'aller se confronter à des séances et des commentaires sur ces séances de chevronnés. Ça tombait bien, on en avait un petit peu en magasin, donc on les a utilisés dans cette phase-là, c'est-à-dire à la lumière de ce qu'ils avaient fait sur leur séance, individuellement, à deux, puis collectivement, on a proposé des confrontations à des séances et des verbatims et des commentaires de chevronnés. Et on les a, dernière chose, et on a fini là-dessus, on n'a pas été jusqu'au bout pour tout le monde, il y en a deux qui ont été, je dirais, jusque-là, on leur avait proposé, on leur avait suggéré d'aller eux-mêmes, avec vidéo ou sans vidéo, mais aller eux-mêmes rencontrer des chevronnés, aller voir ce qui se passait ou demander à des chevronnés de venir voir ce qui se passait pour engager un dialogue avec les chevronnés. Voilà un peu le schéma global de cette formation. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on rentre dans les travaux pratiques. Deux diapos quand même avant, excuse-moi, pour justement donner la tâche. Un objectif à ce travail, d'abord que vous vous appropriiez un matériel particulier, alors qu'on a utilisé de la vidéo, je pense, à moins que vous soyez vraiment très demandeur, je pense qu'on ne regardera pas la vidéo, donc on va travailler à partir de la vidéo mais sans la voir, et on va travailler sur du verbatim, c'est-à-dire de la transcription d'entretien. Donc vous avez sans doute besoin d'une appropriation, à moins que vous ayez l'habitude de travailler avec ce genre de matériaux, mais il y a peut-être déjà un premier objectif de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériel-là. Deuxième objectif, c'est de vous inviter à abstraire de cette lecture-là de ces matériaux des éléments de compréhension, donc d'une part de l'activité du travail enseignant, d'enseignement. Est-ce qu'il y a des traces de l'activité du travail d'enseignement dans ces matériaux, et d'autre part l'activité de formation, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en formation, et puis ensuite on discutera des rapports entre les deux, et puis on verra est-ce que cette distinction est un opérateur intéressant pour la suite, donc pour la formation j'entends. Encore. Voilà, les consignes. Donc là, c'est les consignes pour vous, pour votre activité maintenant. Le verbatim de l'entretien. L'entretien dure une heure et demie. Donc il est impossible pour chacun d'entre vous d'accéder au verbatim de l'ensemble. Et pourtant, je voudrais qu'on travaille sur l'intégralité de l'entretien. Donc je vous présente pas de vidéo et je vous propose de travailler sur l'intégralité d'un entretien qui dure une heure et demie.
En un quart d'heure.
Non. Donc c'est un peu une gageure, hein. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai découpé ce verbatim en 7 parties à peu près égales. Pas égales mathématiquement, hein. J'ai découpé à des endroits qui me paraissaient intéressants. Et vous allez par groupe vous approprier certaines parties donc du verbatim, c'est-à-dire que le premier groupe aura, je dirais, la première partie de l'entretien, puis la deuxième partie de l'entretien, puis la troisième partie. Donc vous n'aurez pas accès chaque groupe à l'entretien entier. Par contre, dans un deuxième temps, nous essaierons que chaque groupe puisse restituer pour qu'on ait ensuite collectivement une vision de l'ensemble. D'accord ? Donc consigne précise, jusqu'à ce que je les ai dit. Après, ce que vous en ferez, forcément, ça sera compliqué. D'abord, repérez donc les éléments importants dans chacune des parties sur l'activité de travail et sur l'activité de formation. Je suggère, mais ce sera peut-être à rediscuter, qu'il s'agit ici d'une mise en dialogue de traces de l'activité de travail, l'activité de formation. Je suggère, mais peut-être ce sera à rediscuter puisqu'on va redéfinir les activités réciproques. Donc ça, vous le faites individuellement ou par deux. Enfin, il y a un temps de lecture qui est en général individuel. Puis, par petits groupes, vous vous mettez d'accord sur une organisation de ces deux activités, des éléments de ces deux activités. Si vous avez le temps et si vous en avez l'intérêt et les capacités, vous essayez d'organiser ces éléments, comme vous l'entendez. Et puis ça sera là c'est les consignes pour le travail par groupe, et ensuite ça sera la mise en commun. On m'a dit qu'on pouvait un peu déborder sur l'après-midi et qu'on finirait la matinée à midi moins le quart. Donc ce qui nous laisse à peu près 3/4 d'heure pour la fin de matinée. D'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on utilise presque 3/4 d'heure. Oui, 35 minutes, pardon. Donc 35 minutes, vous finirez la matinée sur votre travail de petit groupe. On va procéder de la manière suivante. La consigne donc était d'essayer de repérer des éléments qui permettraient d'avoir des informations sur l'activité de formation en formation, avec les traces que l'on a, et l'activité de travail, l'activité professionnelle. Et donc c'était découpé en sept parties. Donc vous n'avez qu'une petite partie des choses, ce qui vous a permis de rentrer un petit peu, j'espère, précisément dans le texte, et qui en même temps vous engage vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que j'en discutais avec le groupe 1, ils commencent à sentir des choses, mais ils attendent la suite. Donc les groupes ont une responsabilité les uns envers les autres. Alors, on va procéder comme ça. On va faire dans l'ordre groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, ainsi de suite. Pour l'activité de travail, d'abord, on va faire un tour sur l'activité de travail. Donc vous allez essayer d'être attentif dans la manière dont vous allez présenter les choses, en disant oui, ça c'est de l'activité de formation, on va en parler, mais on va en parler après. On va essayer de pousser la distinction jusque-là. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, je passe la parole. Groupe 1, dans votre partie, quels sont les éléments saillants qui vous ont retenu de l'activité de travail dont il était question dans les échanges?
Alors, en fait, par activité de travail, tu entends le travail en classe, c'est-à-dire l'aspect descriptif du moment de formation, c'est ça? Par opposition au travail sur soi de l'enseignante?
Alors, évidemment, je ne vais pas répondre à la question. Hein.
Bon.
Ce serait trop simple, puisque tout le travail, je vais y répondre de cette manière-là, tout le travail que l'on mène est justement pour essayer de commencer à distinguer les deux.
D'accord.
Savoir qu'est-ce qu'on y met dans l'un et dans l'autre, et si cette distinction,
alors,
ce que j'avais indiqué au départ, si cette distinction est un opérateur intéressant pour la formation. Mm-hmm. Donc, j'entends bien dès le départ la première remarque, c'était de dire, oui, mais qu'est-ce que tu entends là derrière? Donc, c'est très bien. Mm-hmm. Essayez de dire ce que vous en avez compris.
Bien.
Et puis, on se mettra d'accord si on est d'accord sur une définition de l'activité de travail et de l'activité de formation, et de voir si c'est intéressant, quoi.
D'accord. Nous, alors, si on considère que l'activité de travail, elle relève en fait essentiellement de la description de ce qui s'est produit en classe, on observe donc que l'enseignante est consciente qu'elle est obligée de répéter sans arrêt la règle, que celle-ci n'est pas comprise, n'est pas mémorisée et n'est pas utilisée dans aucune circonstance, même si on refait de très nombreuses fois les exercices, puisque là, l'exemple part d'un exercice qui était censé être vraiment l'ultime exercice de toute une série. Or, elle constate que cet ultime exercice, c'est comme si c'était la première fois que les élèves voyaient cet exercice, ils n'ont rien mémorisé. Et en fait, elle a un sentiment d'insatisfaction par rapport à sa pratique, puisqu'elle est consciente qu'elle ne les fait pas progresser, que cette situation pour ces élèves-là est une situation de souffrance, puisqu'ils sont en échec, et que face à cette souffrance, la seule attitude qu'elle a n'est pas une attitude de professeur, qu'elle apparente à de la fermeté, mais une attitude de maman, qui est là pour faire en sorte que ça souffre le moins possible. Et donc, en fait, elle diminue les exigences au maximum. D'ailleurs, le problème, c'est un peu, on a parlé de behaviorisme tout à l'heure, c'est la métaphore des petites marches, c'est-à-dire qu'elle découpe la difficulté en une infinité de sous-explications, en espérant que les élèves ne commettent plus d'erreurs. En même temps, elle a peur des erreurs des élèves, et donc elle n'interroge que les élèves qui sont censés avoir compris. Parce que pour le reste, c'est quelque chose de tellement horrible qu'il vaut mieux surtout pas en parler. Et en même temps, on commence à comprendre que le doute s'immisce en elle, parce que elle décrit cette pratique, donc, qui est très mécanique, très réductrice, dans laquelle, en fait, l'idée sous-jacente, ce qu'on a pu identifier comme théorie de la pratique sous-jacente, c'est qu'il faut d'abord apprendre un algorithme par cœur. Et une fois qu'on l'a appris par cœur, peut-être au bout d'un certain temps, on va finir par en goûter, en comprendre le sens, un petit peu comme le carré de chocolat qui est un peu dur au début dans la bouche, mais qui va forcément fondre par lui-même. Et donc, en aucun cas, le travail sur le sens ne peut être, dans cette théorie de la pratique, un préalable à la mémorisation. Donc, il y a une sorte d'inversion des choses. Et tout ceci est renversé et clos par un effet Pygmalion négatif, c'est-à-dire c'est les sixièmes d'eux. Et donc, avec les sixièmes d'eux, c'est une classe un peu particulière. En fait, il faut tout leur mâcher parce que, justement, puisqu'ils ne comprennent rien, il faut simplifier encore plus. Donc il y a une sorte d'enfermement dans cette théorie de la pratique que j'avais énoncée par rapport à la mémoire, et on cherche à leur faire réaliser des gestes de pure exécution qui sont peut-être d'ailleurs des préludes à ce qu'ils feront plus tard professionnellement. Et donc aussi on s'attache à ce que les choses qu'ils fassent au moins soient propres, parce que effectivement ça prélude à quelque chose. Mais en même temps, on est insatisfaite puisqu'elle répète plein de fois. Je leur parle avec d'une façon qui est niaise. Je les materne trop. Mais on reste toujours sur un plan affectif, sauf à l'ultime phrase, qui est un peu plus intéressante, qui annonce un déclic qui sera confirmé ou infirmé par le groupe 2, c'est-à-dire être comme elle est, c'est être maternante aimante pour compenser l'échec. Mais je devrais être enseignante. Mais une prof, c'est ferme, donc c'est un peu vache, quoi. Et ça reste uniquement sur un registre affectif, sauf à la fin, où en E68, en fait, elle dit quelque chose qui est paradoxal, qui traduit une phase de déséquilibre dans ses représentations. Oui, mais ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas compris, hein. Et alors, ce qui est étonnant, c'est pas ça, cette prise de conscience que ces élèves ne comprennent même pas qu'ils n'ont pas compris, mais c'est peut-être ça qui me fait répéter 15 fois les mêmes choses. Et or, la conséquence n'est pas des plus évidentes. Lorsque vous comprenez que quelqu'un ne comprend pas, même pas qu'il n'a pas compris, en général, vous passez pas au fait de répéter. Et en même temps, il y a un rapport d'extériorité à son action, puisqu'il y a ce peut-être. Et en fait, elle s'observe comme un automate qui ne sait pas faire autre chose que répéter 15 fois la même chose, tout en se rendant compte que le problème est peut-être ailleurs. Et non. Comme dit l'autre, je finis là, comme dit la collègue, mais ça leur fait pas comprendre qu'ils n'ont pas compris. J'ai pas beaucoup parlé de la collègue, elle est un peu sur le même registre, mais peut-être plus prête à évoluer. Pardon d'avoir été un petit peu long.
Alors, oui, mais c'est toujours très intéressant. Évidemment, le matériau est très riche. Donc, je comprends qu'on ait envie de dire les choses, une partie au moins des choses qu'on a repérées. Hein. C'est vrai qu'il va falloir que les autres groupes aillent un peu plus vite pour qu'on puisse tenir le timing. Tiens, tu passes derrière. Par contre, je ne sais pas si vous avez bien écouté, moi j'avais demandé à ce qu'il ne parle que de l'activité de travail. D'ailleurs, il m'a posé la question, mais l'activité de travail c'est quoi ? Et à plusieurs reprises, il a dit, elle est consciente de, elle est en position d'extériorité sur, je n'ai pas repris tout, hein, mais il y avait toute une série de mentions qui... Voilà. Non mais c'est parce que c'est extrêmement difficile, hein. Si je vous ai posé le problème, c'est que cette question-là est à mon avis un très gros problème. Deuxième groupe.
Alors le deuxième groupe, il était tout aussi dubitatif que le premier sur quelle était l'activité de travail, donc il a tenté de soudoyer le formateur pour en savoir un peu plus. Ce qui nous a donné en plus, c'est... on a des comptes en banque intéressants.
Non, mais ils m'ont donné du chocolat. Hein.
Donc, ce qui nous a donné comme élément supplémentaire, c'est de nous poser la question de finalement comment on rapatrie l'activité de travail dans une activité de formation et qu'est-ce qu'on rapatrie. Donc, ça a aiguisé un tout petit peu notre regard sur l'activité de travail. Ça nous a évidemment aussi amené à nous poser la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on rapatrie de l'activité de formation dans le travail. Mais là, on s'est dit qu'il faudrait la séquence suivante retranscrite pour en savoir un peu plus. Mais évidemment, ça a aussi traversé nos discussions. Donc, nous, on était plus à l'aise avec les traces d'activité de formation. Donc, on est dans un deuxième temps allé chercher celle d'activité de travail. Alors, on va peut-être aller comme ça dans ce sens-là. D'abord, les activités de formation. Donc, on a la dernière page en commun. Hein. Donc, effectivement, pour nous, le premier moment de prise de conscience, le premier moment d'activité de formation par le formateur et la collègue, c'est de faire prendre conscience à cette enseignante que le fait qu'elle soit tout le temps en train de demander à ses élèves « Est-ce que vous avez bien compris ? Est-ce que vous avez bien compris ?» c'est pas suffisant pour s'assurer de la compréhension des élèves, et ils lui font prendre conscience du point de vue des élèves. Et là, ils lui montrent ils arrivent à lui faire prendre conscience d'une double chose, c'est que d'abord, elle est capable elle-même de ressentir la non-compréhension de ses élèves. Alors, elle s'assure en posant la question qu'ils ont bien compris, mais elle sait, elle a besoin d'être rassurée, mais en fait, elle sait très bien qu'ils comprennent pas tout à fait. Donc, et là, c'est le formateur qui l'aide à un moment à verbaliser qu'elle-même ressent que les élèves n'ont pas compris et qu'elle doit en tenir compte pour la suite de sa leçon parce qu'elle essaye d'avancer. Et alors là, elle fait cette prise de la collègue et le formateur lui permettent de faire cette prise de conscience. Donc pour nous, l'activité du formateur, elle est d'une part la prise de conscience, mais aussi la verbalisation par l'enseignante pour vraiment qu'elle intériorise ça. Et puis il lève son angoisse ultime qui est on va perdre du temps. Mon Dieu, si je dois recommencer tout le programme avec ces élèves, je vais pas m'en sortir. Donc l'angoisse première est présente sur la table. Et la deuxième intervention du formateur. Pour nous, cette fois-ci, il est sur le sujet didactique, enfin sur les contenus de savoir, de lui faire prendre conscience que la manière dont elle travaille les virgules avec les élèves, il y a des éléments qui sont avec les puissances négatives plus de 10 plus difficiles qu'avec les puissances positives, et puis il lui fait prendre conscience que le problème, il n'est pas tant le travail des puissances négatives ou puissances positives, c'est que ils n'ont pas vraiment compris le chiffre à virgule, en fait, le nombre à virgule. Et donc, un deuxième temps, il lui fait prendre conscience d'un problème par rapport aux objets de savoir. Dans un troisième temps, pour nous, le formateur et l'activité de formation, mais la collègue aussi, est de faire prendre conscience à l'enseignante que des fois, c'est elle qui va même brouiller la compréhension des élèves par le fait qu'elle est ambivalente dans la manière dont elle traite les erreurs chez les élèves. C'est-à-dire qu'elle dit... je veux surtout pas dire non à un élève quand il dit quelque chose en mathématiques parce que c'est pas parce que les formateurs me l'ont dit, mais parce que moi je suis aussi d'accord avec ça. Il faut pas dire non à un élève, sinon on va le bloquer encore plus. Mais du coup, elle laisse institutionnaliser dans la classe des éléments qui sont erronés et les élèves sont encore plus perdus avec ça. Donc pour nous, le temps de formation numéro 3, il va vraiment être de faire prendre conscience à l'enseignante que par cette position mal assumée sur le traitement des erreurs, elle institutionnalise des savoirs erronés dans la classe. Et puis le dernier temps de formation qui nous semblait intéressant, c'est il lui fait prendre conscience justement de la différence entre les contextes de classe, puisqu'elle a cette sixième particulière et cette sixième normale. Et il lui fait prendre conscience là et d'un traitement différentiel en fait avec ces deux classes. Donc c'est les activités de formation. On pourrait passer aux activités de travail, peut-être je m'arrête là.
Alors, vous voyez, hein, dès qu'on met les gens en activité, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. C'est incroyable. On leur donne une tâche et ils sont en activité, ils font autre chose. Voilà. Alors, non seulement elle m'a parlé de l'activité de formation, mais en plus de l'activité du formateur.
C'est marqué là à côté.
Mais il l'a rajouté. Parce que... bon, mais tant pis. Hein,
En quoi l'interprétation du rôle de la fonction avait des incidences sur la réflexion des enseignés qui étaient en apprentissage. C'est-à-dire, on se disait en fait, à la fois elle induit des choses, mais à la fois le formateur dans son interprétation de sa fonction, dans son rôle, il induit d'autres choses. Et c'est là où je me disais, mais en fait, on se retourne sur autre chose, on se retourne sur nous-mêmes. C'est nous dans nos interprétations qu'est-ce qu'on induit, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Comme elle bloque les élèves, et ben nous, comment est-ce qu'on les... en fait, on se pose des questions en se disant, c'est dommage, ils n'arrivent pas à réinventer des possibles et à voir qu'il y a des bifurcations. Et dans notre interprétation de la fonction, dans notre rôle, on les accompagne pas, là, on réduit, quoi. Voilà.
Troisième.
Bien. Alors, on va essayer d'aller très vite. Alors, nous, on a commencé par se poser la question.
Ce tour de table est fini.
Pour définir l'activité, qu'est-ce qu'on entendait tous ? On s'est mis d'accord sur l'activité de travail et sur l'activité de formation. Alors, pour nous, l'activité de travail, c'est l'activité de travail de l'enseignant dans la classe. Voilà, on s'est mis d'accord là-dessus. Ensuite, sur l'activité de formation, on a défini l'activité de formation comme étant celle de l'enseignante, celle de sa collègue et celle du formateur. Et on s'est situé, non pas dans un entretien de formation, hein, on s'est situé dans un entretien d'autoconfrontation. Voilà. Alors, ce qui a donné au niveau de l'activité de travail, pour nous, l'enseignante, dans son activité, elle est centrée sur la démarche de ses élèves. Elle n'arrive pas à gérer une tension qu'elle a entre la démarche des élèves et le résultat. Elle est dans une, elle insiste. Pour elle, elle est centrée sur cette démarche et sur le résultat. Ensuite, on a relevé que dans son travail, elle avait des difficultés à gérer l'erreur de ses élèves. Hein, et pour elle, donc la question, c'est le statut de l'erreur. En quoi l'erreur m'informe sur la construction des apprentissages des élèves? Donc elle, sa réponse, c'est qu'elle a un bug. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, mais elle a pété les plombs. Et pendant 2 minutes, c'est une bonne élève. Et elle m'a dit des bêtises. Voilà, là, je cite la collègue. Voilà. Elle a un bug le temps de 2 minutes. Voilà ce que dit l'enseignante de son élève. Donc, dans son activité de travail, nous, on a relevé que pour elle, pour que les élèves comprennent, il suffit qu'ils refassent. La répétition va être un moyen de compréhension. Et puis, alors, à travers ça, on analyse le regard qu'elle porte à l'élève. Et elle étiquette ses élèves, et là, elle est vraiment en perplexité parce que c'est une bonne élève. Et là, il y a une représentation de la bonne élève qui apprend ses leçons et qui après comprend. Enfin, parce qu'elle apprend, elle comprend. Et alors là, elle n'a pas compris visiblement, et là, il y a un bug. Hein, dans la tête de l'élève, il y a eu un bug. Voilà. Et puis, dans l'activité de travail, il ne vient pas dans l'activité de travail. Non, il vient dans l'activité de formation, c'est la conclusion. Ouais. Voilà, il y a eu un bug et à la conclusion, c'est ben tant pis. Hein, donc là, donc je n'arrive pas à répondre à la question et les deux enseignantes sont dans le tant pis. Il y a un renoncement, hein, une impuissance là.
Ça veut dire qu'on sent monter un problème et puis le problème résiste, hein, ce que tu dis. Et puis bon, il est trop résistant, tant pis. On accepte qu'on ne puisse pas agir dessus, quoi. Hein, c'est ce que je comprends comme ça. Ok. Groupe 4.
Alors, la façon dont on a procédé, en fait, on a été un peu plus catégorisant dans le sens où on a défini l'activité de travail globalement comme le groupe précédent, c'est-à-dire ce qui faisait les descriptions de l'activité de l'enseignant dans sa classe. Et ce qu'on a décidé comme activité de formation, c'est tout ce qui pouvait à un moment induire une réflexion. Une réflexion de l'enseignante dans sa classe. Alors, on a, méthodologiquement parlant, il nous semblait important de déterminer finalement quels étaient les enjeux dans la partie courte qu'on avait, quels étaient les enjeux du formateur. Et ce qu'on a déterminé comme enjeu, c'est de ne pas utiliser les trucs, entre guillemets, à la place du sens, avec un risque qui était la perte du sens mathématique. Ensuite, donc, on a décliné et on a stabilo-bossé en rose.
Excuse-moi,
et
je voudrais être sûr d'avoir compris ce que tu dis. J'ai compris, pour le formateur, donc je le mets dans la partie formation, l'enjeu est de ne pas utiliser les trucs à la place du sens. C'est ça que tu
veux. Nous a semblé, on a émis une hypothèse sur le fait que l'enjeu dans la partie qu'on avait, nous, l'enjeu pour le formateur, c'était d'amener l'enseignante à réfléchir sur le fait que d'utiliser des trucs... Hein, c'était dit que c'était des astuces, hein, c'est ce qu'elle a dit, risquait de faire de perdre le sens de ce qu'elle avait à apprendre aux élèves, de l'objet d'objet mathématique. Donc on a fait une lecture linéaire de la partie et on a déterminé donc ce qui était de l'ordre de l'activité de travail et de l'activité de la formation, et on a ensuite essayé de catégoriser notamment parce que bon, l'activité de travail, donc elle, en fait, elle décrit, hein, elle est sur de la description, et on a plutôt essayé de voir à quel moment, en fait, la description pour nous était un support de l'activité de formation. Et donc on a repéré à chaque fois soit que le formateur intervenait, soit que le collègue intervenait, qu'est-ce que finalement qu'il y avait derrière. Donc toute la première partie, il y a une provocation de la réflexion par le formateur. Il y a le pointage sur une contradiction apparente qui est le discours mathématique donc versus une stratégie pédagogique qu'elle a appelée truc. À nouveau une provocation de la réflexion du formateur. Donc ça, on l'a retrouvé. On va dire que c'est ce qui ponctue tout le discours. C'est à un moment la reprise par le formateur d'une phrase ou d'une interrogation ou d'une constatation de l'enseignante quand elle décrit son activité. Alors linéairement ensuite, il y a une première étape, ce qu'on a appelé nous une première étape de la formation, c'est une réappropriation ou réactivation de jugements qui ont été faits antérieurement à la partie qu'on a eue. Ensuite, pour nous, il y a une continuité après et qu'on n'a pas. Alors, en fait, à un moment, donc pour nous, il y a une première étape qui est une réactivation, c'est-à-dire qu'il y a une réactivation de quelque chose qui avait été dite à cette enseignante antérieurement à l'autoconfrontation. Et donc, elle, à un moment, elle revient, elle fait un constat sur le fait que ce qu'elle est en train de verbaliser, c'est finalement une réflexion qu'on lui avait faite antérieurement. Donc, elle réactive ce qu'on lui avait dit antérieurement. Et il y a une forme de réappropriation de cette réactivation. Ensuite, donc, il y a toute une série donc, de guidages de la même forme, c'est-à-dire une provocation de la réflexion par des questions sur l'activité. Ensuite, il y a un autre objet qui est pris, donc, où toujours elle cherche à faire expliquer la méthode, enfin le formateur ou la formatrice cherche à faire expliquer la méthode sur un autre objet. Et il y a un moment alors je ne sais pas si c'est le terme, c'est de rupture, mais de point clé, justement, enfin qu'on a appelé la clé par rapport à l'enjeu qu'on s'était déterminé au départ. C'est une question que pose le formateur ou la formatrice en disant explicitement, c'est-à-dire il faudrait passer du truc au sens. Et là, pour nous, c'est exactement le moment où il y a un déclic par rapport probablement, enfin à l'hypothèse qu'on avait émise sur l'enjeu de passer du truc au sens. Ensuite, il y a toute une partie où, dans les questions-réponses et dans le déroulement du discours, où qu'on catégorise comme une démonstration du formateur à l'enseignante que ce qu'elle fait ne donne pas sens. Donc, c'est une conscientisation de cette chose-là. Alors, c'est ce qu'on a appelé aussi une prise de conscience de la distance entre truc et sens. Et enfin, une autre prise de conscience en rapport avec ce qui a été dit sur le premier groupe, me semble-t-il, ou le deuxième, sur le fait que finalement, quand elle fait des trucs, elle est maternante, et quand elle fait sens, elle ne l'est plus. Elle est dans un rôle plus, on va dire, institutionnel d'enseignante que quand elle fait des trucs, entre guillemets. Voilà, et on s'est arrêté là, parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer.
Donc, je vous propose d'enchaîner tout de suite. Groupe 5.
On ne va pas répéter tout ce qui a été dit avant, donc on va faire court de cette façon-là. En fait, la partie de l'entretien qu'on avait à étudier démarre sur une relance du formateur qui est, à mon avis, un temps de formation en lui-même. Et qui fait référence surtout à un temps de formation, on a demandé des précisions là-dessus, à un temps de formation précédente. C'est-à-dire que dans une formation précédente, on avait proposé, un formateur avait dit, il ne faut pas de trucs, c'est... voilà. Et on repart de cette idée-là. Et dans un premier temps, on est de la même façon sur une explicitation claire, enfin précise, de ce qu'est un truc pour elle. Elle donne des différents exemples. On s'écarte un peu du sens et on revient un peu, à un moment donné, sur deux choses... Elle s'interroge sur sa posture et là, elle ne ramène pas justement de faits qui pourraient nous en donner plus. Par contre, elle insiste sur l'apprentissage par répétition à l'identique et elle va chercher quand même des éléments du côté du contexte. C'est-à-dire qu'en fait, par l'intermédiaire de sa collègue, elle va s'intéresser au fait que la classe, comme elle dit, a été adaptée. On a construit une classe de cette façon-là. Et ce qu'elle ramène, c'est qu'effectivement, elle a peut-être une attitude différente où elle l'explicite un peu plus, elle utilise des trucs, mais elle n'en est pas au niveau, je dirais, d'une ruse. Ça, c'est une interprétation personnelle, d'une stratégie pédagogique. Et elle catégorise les élèves et donc son attitude et son fonctionnement parce qu'avec les élèves qu'on lui a donnés dans cette classe-là, elle ne pourrait fonctionner que comme ça. La vidéo est relancée et on n'a pas su qui l'avait relancée, si c'était le formateur ou si c'était le formé. Mais ça coupe court justement à tout ce développement qui prend quand même une bonne cinquantaine de lignes sur la description de l'environnement et sa difficulté justement du côté maternant à ne pas distinguer des élèves qui seraient de SECPA mais ils ne sont pas tout à fait de SECPA. Enfin, ça lui pose problème. Et là, on commence à, je dirais, on est peut-être plus dans de l'interprétation que dans des faits de sa part. Par contre, on repart avec la vidéo sur la place de la virgule, les trous, etc. Et j'avais pas grand-chose à dire sur la fin parce que par contre, nous, c'était une interprétation de notre part de dire on a le sentiment que ni elle ni sa collègue n'ont bougé d'un iota entre la première question elles n'évoquent pas de doute par rapport aux méthodes mises en œuvre. Par contre, elle a de plus en plus de doutes par rapport à la posture qu'elle tient vis-à-vis de ses élèves. Et donc, la supposition qu'on faisait, c'est effectivement, va-t-elle aller chercher d'un autre côté que tout ce qu'elle a décrit pour l'instant, et va-t-elle se poser des questions réelles de différenciation?
Ok, donc vous voyez que les groupes ont un regard à chaque fois sans doute orienté par le contenu du verbatim, hein. À chaque fois il y a c'est une autre partie, et en même temps on voit à travers vos différentes remarques, vos observations, qu'il y a aussi un regard porté, hein, sur ce qui est dit. À des moments on parle beaucoup du formateur, à d'autres moments on parle surtout de la collègue, de l'enseignante. La collègue pour l'instant elle est apparue mais relativement rarement. Donc voilà, soyons attentifs à cela. Sixième groupe.
Bah nous, alors là, elle est à l'étape 6, elle est vraiment très fatiguée, cette enseignante. Pour la description de son activité, enfin, plus exactement, la première question, activité de travail pour nous, c'est la description de son activité. On l'a caractérisée de cette manière, elle la singularise à une classe précise, donc déjà, cette activité. Et puis, elle est toujours dans cette espèce de logique que la répétition d'une procédure arrive à la réussite. Et nous, tout l'entretien, et là, on arrive sur l'aspect formation. Bah, finalement, là, la collègue, dans notre entretien à nous, elle intervient beaucoup parce qu'elle intervient en écho avec le formateur. Et tous les deux essayent de lui faire montrer que finalement, réussir, c'est pas forcément comprendre. Et en gros, voilà, je simplifie, quoi, parce qu'il faut être court. Mais voilà, c'est notre ressenti, à moins que...
Tu peux revérifier ta phrase, parce qu'elle a suscité des propositions. Elle intervient de...
Réussir, c'est pas forcément comprendre. Voilà. En gros, c'est pas écrit comme ça, mais si on avait un titre à mettre à notre chapitre... Enfin, je sais pas, je paraphrase Mérieux, si tu veux, mais voilà, c'est ça. Si tu veux, elle se satisfait, elle, d'une réussite. Elle se dit, plus je vais répéter, plus ils vont réussir. Et voilà, et donc forcément, plus ils réussissent, plus ils ont compris, je peux passer à autre chose. Et sa collègue et le formateur, c'est d'ailleurs sa collègue dans notre extrait qui prend de plus en plus l'ascendant sur le questionnement pour lui mettre le doigt sur « mais le fait qu'ils aient réussi, tu penses qu'ils ont vraiment compris ça ?» Et voilà. Et elle arrive finalement à s'interroger parce que la dernière réplique, merci Léonie, elle dit « ah ouais, mais il n'a pas forcément compris, ouais ». Ouais, mais pourtant il l'a trouvé. En gros, c'est ça.
Alors je vous lis la synthèse du groupe. L'organisation de l'échange dialogique repose.
Non, tu le lis pour que je le prenne en note au tableau, hein. Donc c'est ça la différence.
On te le donnera avec une clé USB après.
Non, le jeu c'est que tu le lises pour que je le prenne au tableau.
L'organisation de l'échange dialogique repose. Non, je crois que je vais d'abord le dire. Ça sera plus simple.
Tu fais comme tu sens.
Non, sinon, si je m'arrête à chaque mot. Voilà, du type dicté, ça va être insupportable. Donc je reprends. L'organisation de l'échange dialogique repose sur la confrontation de points de vue de pairs novices à propos de la numération. Ses finalités didactiques et modalités de mise en œuvre pédagogique au travers d'une solution qualifiée de truc. Alors la citation, c'est F424 sur notre verbatim. Tu veux dire que c'est un autre truc ? Citation. Lors de la situation de formation, ayant comme objet l'activité professionnelle de l'enseignante, les trois significations divergentes repérables, sens mathématique, vocabulaire et le truc que l'on rabâche à chaque fois, mettent en exergue une différence de centration des deux PLC. L'une sur sa préoccupation du temps, de la gestion du temps, et l'autre sur les conditions d'application et de répétition du décalage de la virgule sur la gauche pour le calcul de la puissance de 10 négative afin d'aider les élèves. À la fin de l'extrait, le formateur-chercheur met en perspective ces différences de signification, ce qui permet la convergence des échanges sur un problème générique, faisant consensus, c'est-à-dire la capacité de réfléchir la numération au travers de la mise en synergie de ces trois composantes. S'opère dès lors ce que Feita et Soja qualifieraient de percolation et télescopage des styles, si le style débutant existe. Ce qui offre à eux, l'enseignante, une nouvelle piste de reconsidération de sa pratique.
Voilà le déroulé. On a fait en fait l'activité. Pardon. Alors,
il y en a quand même qui ont respecté la consigne de groupe.
Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont respecté la consigne. Non, mais ce que je vous propose, là, puisqu'il nous reste, pour finir, c'est ça, hein, il nous reste 10 minutes, là, pour finir le... D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que, à la lumière, maintenant, de l'ensemble du déroulé, hein, que vous n'aviez pas, ce que je vous propose, c'est de vous redonner la parole sur, alors, qu'est-ce qu'il en est de l'activité professionnelle, du rapport de l'activité professionnelle à l'activité de formation. On a vu que il était question de l'activité professionnelle, mais dans quelle mesure la vidéo... Vous avez relativement peu parlé des transcriptions de la vidéo. Vous êtes beaucoup attardé sur ce qu'ils disaient, de ce qu'ils avaient fait, mais de ce qui se passait en classe. Vous avez, par exemple, vous n'avez pas du tout dit, là, ça, c'est de l'activité professionnelle. L'intervention de l'enseignante en classe... Personne n'est allé là-dessus. Je n'ai pas entendu. Ah d'accord. Alors, d'accord. Bon, alors, ok, autant pour moi. Parce qu'elle dit aussi qu'elle répète. Hein, dans l'entretien, elle dit qu'elle répète aussi. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous repreniez la parole à la lumière de l'ensemble sur, soit pour apporter des précisions sur l'activité de formation pour ceux qui n'ont pas pu le dire, ou de comment on peut le distinguer et si c'est pertinent de le distinguer ou pas.
Alors nous, on va vous dire les traces de l'activité de formation. Donc pour nous, alors si mon collègue m'affiche le tableau, parce que je ne l'ai pas de mémoire complètement. Voilà. Alors nous, on a trouvé qu'une activité de formation qui était la contextualisation pour donner du sens par rapport à l'ordre de grandeur, donc qui est intervenue par la collègue et aussi par le formateur. Donc c'est une action de formation, enfin c'est une activité de formation, c'est pas une action de formation, c'est une activité de formation dans cet entretien. On a aussi relevé une activité de formation lorsque le formateur, il nous semble, cherche à mettre en évidence les contradictions sur l'approche de l'enseignante entre démarche et résultat. Et on voit qu'il essaye d'induire une attitude réflexive. Voilà. Une activité de formation quand la jeune enseignante se sent impuissante. Hein, on entend dessous l'enjeu de mon métier. Qu'est-ce qu'est mon métier ? Et puis, enfin, à un moment, c'est la collègue qui va faire émerger et le formateur où les enjeux didactiques vont être mis en évidence pendant un bref moment. Où la question des mathématiques va se poser. Hein. Est-ce que c'est mathématique ? Est-ce que c'est une démarche ? Est-ce qu'une démarche est mathématique ? Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. On a complété. Donc, la formation, en fait, si, il y a eu... Et à la fin, il y a eu une prise de conscience que le résultat n'est pas l'indicateur du fait que l'élève a compris. Voilà. Donc ces activités de formation sont le fait des trois interlocuteurs.
Pour aller un tout petit peu dans ton sens, il est question de l'activité de multiplication, enfin elle est présente ça comme ça, de multiplication par 10, par 100, par 1000 ou par 0,1, par 0,01, 0,001. Qu'elle qualifie pas autrement pour l'instant, alors que sa collègue fait appel à une expérience du théorème, de l'utilisation du théorème de Pythagore dans Thalès, hein, et elle dit quand on utilise le théorème de Pythagore en disant théorème de Pythagore, on fait un raccourci, un truc pour dire tout ce qu'on n'a pas dit. C'est pas là ? Ah pardon. Je croyais que c'était à ça que tu faisais référence.
C'est multiplié par 0,1, c'est les millièmes, les centièmes, les dixièmes, etc., la position après la virgule.
Ah, c'est dans le numéro 4, ah, pardon, j'ai confondu. Hein, mais il y a ce rapatriement de la collègue qui, à sa manière, dit, ben, en fait, quand moi j'utilise l'intitulé Théorème de Pythagore, qui comporte évidemment une grande démonstration, je fais aussi un raccourci. Hein, c'est ce qu'elle...
Juste pour préciser, parce qu'on ne l'avait pas noté, mais puisque tu nous le dis, il y a deux appels à la vidéo, dont une où effectivement c'est le formateur qui dit on regarde et hop on voit un extrait. Et après on voit, c'est comme les collègues, on voit un appel à la vidéo mais on ne sait pas qui est-ce qu'il sollicite.
Je vous propose qu'on prenne progressivement du recul par rapport à la situation pour qu'on commence à entrer dans l'analyse de ce qu'on fait et qui va permettre ensuite à Youri de... pouvoir redécliner un peu son cadre en disant qu'est-ce qui fait que dans la formation qu'il met en œuvre, il met en œuvre ce genre d'activité de manière à ce qu'on conclue cette séquence. Excusez-moi pour ce rappel.
Nous, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant à l'écoute aussi des autres groupes, c'est qu'on a l'impression que dans cette séquence, l'enseignante, elle évolue par paliers. C'est-à-dire que elle opère des prises de conscience, elle résiste. Elle opère des nouvelles prises de conscience. On voit que ça résiste encore. Alors, on espère toujours le happy end. Et puis, mais ce qui nous a en tout cas vraiment étonné, c'est cette sorte d'aller-retour. On a un beau dessin, mais vraiment dans l'activité de formation. Et puis, ben, évidemment, ce qui nous interpelle, c'est la diplomatie, le tact, la manière dont le formateur interroge cette enseignante. Et là, on se pose la question de la formation du formateur. Parce que... nous, on peut avoir, mais bon, Genève, c'est un peu exotique, des formateurs assez dogmatiques dans les didactiques disciplinaires qui vont pas vraiment avoir ce genre d'interaction avec les étudiants et à des moments asséner aussi des choses d'une manière assez forte et du coup peut-être casser cette réflexion ou ce déplacement qu'elle est en train d'opérer et ces prises de conscience qu'elle est en train de faire. Donc,
ça nous est arrivé que quand on montre ce corpus à des formateurs de l'UFM dont elles étaient sorties, les formateurs ont dit c'est pas possible qu'elles sortent de chez nous.
D'autres commentaires sur l'ensemble, hein, en essayant voilà, de cette prise de recul de puisque maintenant on a l'ensemble. Alors peut-être une petite précision par rapport à ça, puisqu'il a été longuement. Presque aussi longuement question de l'activité du formateur. Bien entendu, votre préoccupation en tant que formateur, dans un stage de formateur, est la posture de, enfin, la posture, l'action du formateur. Hein. Et donc, j'avais suggéré à Patrick, ce matin, on l'avait pas prévu hier, mais de mettre un certain nombre de groupes sur l'activité du formateur. Voire certains sur l'activité de l'élève aussi. Hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une imbrication de différentes activités, qu'elles réfléchissent avec différents niveaux d'analyse. Des fois, on s'appuie sur l'activité de l'élève, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il comprend pas, qu'est-ce qu'on lui fait faire, et nous, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, vous avez cette lecture de formateur, dans une situation de formation de formateur, qui est de se dire, oui, mais là-dedans, quel est le rôle du formateur et qu'est-ce qu'il fait dans ce qu'on voit qu'il fait. Hein, donc voilà, par rapport à cet ensemble, peut-être encore une ou deux remarques. Parce que alors je vais vous en parler sans vous les montrer. J'avais imaginé vous projeter ce que... Parce que vous vous rappelez le processus de formation. Hein, on construit la possibilité d'aller filmer les collègues. On s'entretient avec eux individuellement. Autoconfrontation simple, puis par deux, avec la présence d'un collègue pair. Puis, on utilise les matériaux que vous avez, vous, là, entre les mains. C'est pour ça que je disais, c'est à la fois un produit de la formation et aussi un instrument de la formation, puisqu'on a utilisé ces verbatim dans la formation. Et ils ont construit une certaine représentation, avec, il y a différents groupes, de ce qu'ils comprenaient, eux, à leur niveau, les T2 entre eux, hein, de ce qu'ils avaient compris, eux, de ce que la collègue était en train, du cheminement de la collègue. En trois secondes, je vous les montre, mais vous n'aurez pas le temps, parce qu'ils sont, complexes. Il y en a certains qui sont des brouillons, parce que voilà, c'est des étapes de travail. Donc, je vous les montre, mais voilà. Alors ça, c'est un premier, où les, vous voyez pas? Enseigner, signaler ce qu'il y a à faire et à comprendre. L'astuce pédagogique pour aider à, en haut, le sens et la leçon dans le programme. Donc, ils ont commencé à constituer un univers de qu'est-ce qui est en jeu dans l'activité. Bien sûr, il y a ensuite, je ne vais pas tout décliner hein, parce que sinon ça va être trop long, mais il y a d'un côté ne pas trop s'user, ne pas s'énerver, ne pas culpabiliser. Hein, c'est des choses qui ont circulé dans les verbatims. L'utilisation des outils, voilà. Enfin bon, je ne vais pas tout décliner, hein, mais c'est simplement pour vous dire qu'est-ce qu'ils en ont fait dans la formation. Alors, la représentation précédente, c'était avec un groupe. Ça, c'est avec un autre sous-groupe. Là, c'est une représentation d'un des formateurs de ce que disent, de ce qu'ont repéré les stagiaires, d'accord. Lui, il l'a représenté avec ce qu'il transportait. Et on a bien vu dans vos interventions comment la manière dont vous abordiez les choses était inspirée par votre activité. On peut penser que les didacticiens aient eu un regard un peu particulier quand les formateurs ou des inspecteurs ou des chercheurs, chacun ayant un petit peu son regard particulier. Donc là, c'est une représentation du formateur en séance à partir de ce qu'ont dit les collègues. Et c'est des outils, ces représentations, qui ont été mis en circulation dans la formation. Hein, pour qu'il y ait confrontation entre les différentes représentations. Donc, prof et élève savoir, triangle didactique habituel, et puis des tensions qui apparaissent, par exemple, il n'est pas facile pour l'enseignant de savoir ce que l'élève n'a pas compris, et il n'est pas facile pour les élèves de savoir ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris. Hein, référence à des morceaux de voilà. Encore une fois, les instruments, les outils, pareil, je décline pas. Voilà, un autre type de travail, avec ces mêmes verbatim, hein, où on a essayé d'organiser ce qui était repéré, avec comprendre ce que l'élève ne comprend pas, et donc expliquer quel lien il y a entre les deux, et puis du côté de l'élève, la compréhension de sa compréhension, et donc la compréhension de la situation, quoi. Voilà. Bon, je décline pas, hein. Ce serait intéressant de voir ce qui s'est fait, mais c'était simplement pour vous dire dans quel type de formation, comment on a utilisé ça dans la formation. On l'a également confronté à des représentations issues de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont une certaine appréhension, compréhension de ces fonctionnements d'activité et donc qui en fait des représentations. Je le fais vite là aussi, issu de... Non, c'est pas Bucheton, ça arrive après Bucheton, vous inquiétez pas. Là, c'est Rochek Sekerubi qui avait mentionné une série de contradictions fortes de l'enseignant en ZEP dans la revue française de pédagogie. Voilà, donc des contradictions entre logique de réussite, logique d'apprentissage, entre travail d'enseignement et d'apprentissage ou créer et préserver les conditions de possibilité. On voit qu'il y a des échos, hein, mais il y a eu tout un travail par les stagiaires de construction de cela. Hein. Les logiques collectives de conduite de classe et les logiques individuelles, les interprétations plutôt comportementales et les régulations cognitives. je fais vite là aussi, hein. Voilà, ces différentes représentations qui ont été construites par les chercheurs, qu'on a confronté avec eux, avec les représentations qu'ils avaient élaborées à partir de leur compréhension de ce qu'ils avaient échangé sur ces autoconfrontations. Alors, voilà, ce que je vous propose maintenant, en très peu de temps, c'est de vous dire en quelques mots ce qui nous a permis, ce sur quoi au moins on énonce, que l'on s'appuie, pour mener ce type de formation. Plusieurs champs, on s'interroge, disons, et ça nous a porté sur la convergence de plusieurs champs. Plusieurs champs de champs scientifiques, ça arrive aussi, mais là, c'est pas le cas. la clinique de l'activité qui est une branche de la psychologie du travail, hein, qui dit étudier le fonctionnement du développement de l'activité. Pas le fonctionnement de l'activité, hein, c'est-à-dire pas comment l'activité se déroule, mais comment elle se développe. Et est-ce qu'il y a des lois de développement de l'activité ? La didactique professionnelle qui étudie les processus de développement professionnel en formation. En particulier, comment l'analyse de l'activité de travail peut être une ressource pour la formation ou pas. Et bien sûr, le troisième champ, c'est le champ, d'activité en tant que formateur, c'est la formation, qui vise à développer, à provoquer du développement professionnel. Alors, cette problématique, comment on peut faire converger ces trois champs pour se demander comment une activité de travail peut être l'objet d'un développement dans une activité de formation. C'est la distinction que j'avais tenté, qu'on a essayé ensemble de voir, hein, c'est qu'est-ce qui est différent et comment ça peut s'engrener les uns dans les autres. Alors, j'avais prévu, mais je ne veux pas vous en faire part, de vous parler de la conception de l'activité en clinique de l'activité. Parce que ça me semble assez important de revenir. Il a été question, on m'a posé la question, c'est quoi l'activité de travail ? On s'est posé la question, c'est quoi l'activité de formation ? Puisque je vous avais proposé ces termes-là. Et donc, il serait intéressant de redéfinir ce qui a sous-tendu, nous, notre perception des choses et qui a conduit à cette conception de formation. Je vais pas le détailler, je vais simplement vous le présenter en une diapo. Voilà. Alors, l'activité est forcément l'activité d'un sujet. Pour ceux qui connaissent un peu, vous excuserez les raccourcis, hein. Mais il faut être pragmatique parfois. Donc, l'activité est forcément l'activité d'un sujet. Donc, pour l'approcher, il faut mobiliser le sujet. Mais bien sûr, cette activité a un objet. Alors, quand on parle de l'objet de l'activité, c'est pas forcément l'objet matériel, hein. C'est l'objet de l'activité, ce qu'elle met en mouvement. Évidemment, il y a une relation forte. C'est cette relation qui est en général perçue comme première. Il y a une relation entre un sujet et l'objet de son activité. Mais la psychologie du travail et en particulier la clinique d'activité estime que c'est pas suffisant pour définir l'activité, qu'il faut que cet objet il fait déjà partie d'autres activités, et que de considérer cet objet à l'extérieur des autres activités nous coupe de toute une partie de la compréhension de ce que fait le sujet. Donc il y a l'activité. Enfin, l'activité que des autres portant sur cet objet, sur l'objet de son activité. Bien sûr, puisque l'activité des autres portant sur cet objet a une relation avec cet objet, mais il y a une relation, je dirais, interpersonnelle avec le sujet de cette activité. Là, en l'occurrence, si on prend l'exemple des deux activités qui nous ont tenues, dans l'activité professionnelle, il y a évidemment l'objet dont on pourrait discuter, puisque il est discuté par les collègues, hein, entre alors il y en a certains qui ont dit c'est l'activité qui se déroule en classe, ça ne dit pas de l'objet. Il y en a qui ont dit au début c'est la vie de groupe, hein, est-ce qu'elle est maternante, est-ce qu'elle est pas maternante, et puis après, il y a eu la question de l'enseignement. Donc là, l'objet, déjà, est en bougé. Mais bien sûr, il y a l'activité des élèves qui porte sur l'objet de l'activité de l'enseignante, hein, qui est fortement mobilisée, cette relation. Dans l'activité de formation, on a bien vu aussi comment l'activité de l'enseignante était, je dirais, prise dans l'activité du formateur et de la collègue. Donc il y a bien ces trois dimensions, bien sûr à chaque fois avec des instruments qui permettent à la fois d'agir sur le sur l'objet, des instruments matériels, mais aussi les instruments psychologiques d'action sur celui qui a une action sur cet objet. Alors ensuite, quand on a dit ça, on a dit, bah oui, il y a différents pôles et puis ils sont en relation. Ça nous éclaire pas beaucoup plus. Ça permet de distinguer certaines choses, mais ça nous éclaire pas encore très bien sur l'enjeu de l'activité. Ce que dit la kiné de l'activité, en particulier celui qui l'a théorisé le plus, Yves Clos, c'est que ces relations ne sont jamais directes. Et du coup, l'activité est un conflit. C'est-à-dire que on ne va jamais directement du sujet à l'objet. On ne peut aller du sujet à l'objet que par l'intermédiaire des activités des autres portant sur cet objet. Inversement, alors vous allez me dire c'est contradictoire, mais c'est contradictoire. Je fais les questions et les réponses. Hein. voilà. Et d'attendre les bonnes réponses aussi. Et la contradiction. Mais ça viendra après. on ne peut jamais aller directement du sujet à l'activité des autres portant sur cet objet. Elle est forcément médiatisée par l'objet de son activité. Et dernière chose. Marche, oui. Et dernière chose, c'est que l'activité que l'on a sur un objet a bien sûr un impact sur soi. D'accord ? On fait cette activité parce que ça nous importe, ça nous engage, et du coup, ça a une action sur le sujet même. Et là aussi, on n'a pas d'action directe sur soi. La croix est masquée, mais on n'a pas d'action directe sur soi. L'action sur soi passe. Ah ben non, c'est pas ça. Bon, c'est, voilà. Elle est médiatisée par l'accès à l'objet de l'activité et à l'activité des autres portant sur cet objet. D'accord ? Donc on agit sur soi par les autres. Là, dans le cadre de l'autoconfrontation, il me semble qu'on a pu voir un petit peu cela, dans le sens où quand le collègue dit « elle prend conscience », c'est que l'activité des autres a une action sur elle, et c'est elle qui, dans son activité, utilise l'action des autres, sur l'objet de son activité, pour avoir une action sur elle. Voilà, une première approche de l'activité en clinique de l'activité. Alors, très vite aussi, hein, je fais des raccourcis énormes, hein, mais l'activité... alors, je vous ai présenté un premier modèle de l'activité, mais cette activité, elle n'est pas atemporelle, elle n'est pas ahistorique, elle n'est pas asociale au sens où elle serait asituée socialement. Elle s'inscrit dans des préfigurations de cette activité. Et une des préfigurations, qui est une préfiguration, pardon, et en même temps contrainte et ressource de l'activité, c'est la référence culturelle de cette activité. Ce que dans l'activité, pour l'activité de travail, on peut nommer le métier. Le métier, et regardée en clinique d'activité comme étant un conflit complexe entre plusieurs dimensions, entre quatre dimensions. À chaque fois, quand on fait appel au métier, on fait appel à une dimension personnelle, un vécu intime de ce métier, mais aussi à des dimensions interpersonnelles, c'est-à-dire que on a rencontré des personnes qui avaient ce métier-là et dans lequel on commence à se dire qu'on partage quelque chose. Et là, la notion de père est bien sûr très importante pour se dire dans quelle mesure je suis effectivement père de cet autre. Il y a une dimension interpersonnelle qui est, je dirais, la plus connue et la plus utilisée, qui est la prescription. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que l'institution attend? Et qu'est-ce que les différents échelons hiérarchiques attendent et disent attendre? Et puis, il y a une dimension transpersonnelle, au sens où c'est des choses qui circulent dans l'histoire de la profession, du métier, et auxquelles on peut se référer ou pas se référer. Est-ce qu'on est en dissonance? Est-ce qu'on est à l'extérieur de ce qui est reconnu comme étant le métier, en dehors de ce qui est demandé, hein? Là, on est plutôt du côté du corpus des savoir-faire, qui sont plus ou moins sédimentés et plus ou moins conceptualisés. Le métier et ses quatre instances est en même temps un conflit entre ces quatre instances. C'est-à-dire que c'est pas une conception stabilisée, stable, arrêtée de la relation entre ces quatre instances. Il y a des interactions permanentes entre ce que j'estime être le métier pour moi, mais ce que me dit le collègue de ce qu'il devrait être le métier, hein, ça a circulé dans les verbatims, de ce que on me demande de faire. Et là, on voit bien que c'est pas stable, c'est pas homogène non plus, hein, entre dans l'exemple qui nous a tenu là, hein, entre le collège qui met en place une classe de 6e 2 particulière, pour reprendre ces termes, et l'énonciation de l'orientation principale de l'éducation, qui est de former tous les élèves, hein, de faire réussir tous les élèves. Là, on voit bien que cet impersonnel est complexe. Et bien sûr, il y a qu'est-ce que j'ai, de quoi j'hérite, quelles sont les expériences des autres enseignants qui ont fait ces expériences avant moi. Et là, par exemple, le rôle du formateur peut être on peut l'interroger, en tout cas, en quoi il est transmetteur de cet aspect transpersonnel, et comment surtout l'enseignante se l'approprie en le transformant. Donc il y a des relations entre chacun des instances du métier, bien entendu, hein. Mais plus globalement, si on regarde, si on pousse la réflexion, et avec les matériaux là, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin dans ce sens-là. C'est que s'il y a quatre instances, il y a deux pôles. Il y a d'un côté le pôle de l'institué, du stock, des normes, qu'elles soient impersonnelles ou transpersonnel, c'est pas les mêmes, hein, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose du côté de l'institué, ce qui est déjà là, il va être confronté à l'instituant, c'est-à-dire le flux, l'activité, l'imprévu, l'inattendu, qui est du côté du personnel, de la relation entre le personnel et l'interpersonnel, hein, ce que j'arrive à mettre en place et ce que je discute avec les proches de ce qu'on arrive à faire ou pas, et qui va être en conflit, c'est pas un conflit négatif, hein, c'est un conflit où on va pouvoir s'appuyer sur tel ou tel aspect qui peuvent être des contraintes, qui peuvent être des ressources suivant les cas. Bien sûr, dans ce cadre-là, et je dirais la discussion qu'on a eue a été importante de ce point de vue-là, c'est la place et le rôle de la formation dans ce mouvement du métier, de l'appropriation du métier, mais pas seulement de l'appropriation du métier, parce que quand on s'approprie le métier, on le transforme, on le modifie, on le fait vivre. C'est pas une réalité intemporelle, hein, puisque c'est un conflit qui n'est jamais réglé. Il me semble que, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, cette expérience et les présupposés que je vous ai indiqués très très rapidement posent des questions, interrogent la conception de formation. Et là, je m'appuierai en particulier, pas seulement, mais en particulier sur ce que fait la didactique professionnelle. Dans la formation, est-ce qu'il y a, du point de vue de la formation, une centralité de l'activité ou pas? C'est-à-dire comment on utilise et on rapatrie l'activité professionnelle dans l'activité de formation. Alors c'est une notion que j'ai pas développée, mais est-ce qu'on va jusqu'au réel de l'activité, c'est-à-dire y compris ce qui n'est pas réalisé, ce que l'on souhaiterait faire mais qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, hein, j'ai pas développé, mais c'est une notion de clinique de l'activité. Donc la centralité de l'activité dans la formation, point d'interrogation, et jusqu'où cette centralité de l'activité? Quelle est la conception de l'activité? D'autre part, je l'ai indiqué, on a pris le parti de réitérer les manières d'aborder cette activité. D'abord en la filmant, ensuite en la commentant seule, en la commentant à deux, en la commentant à collectivement. Donc il y a une forme de réitération, à chaque fois avec des orientations différentes. À quel moment on est dans la répétition et à quel moment on est dans la répétition mais sans répétition? Et qu'est-ce que ça peut provoquer en termes de développement? À quel moment et comment on confronte ce que l'on est en train de construire en formation avec des modèles préexistants? Il y a derrière là, je le pose comme ça, mais toute la confrontation au savoir scientifique lié à cette activité qui est parfois obstacle, parfois ressource, non pas pour agir, mais pour développer sa capacité d'agir. Donc à quel moment, comment on l'utilise? La formation, si on prend un peu plus de recul, s'agit-il de changer les pratiques, comme on l'entend souvent, ou, et dans quelle mesure on arrive jusqu'à cela, hein, c'est plutôt une tension entre les deux, c'est un ou un peu exclusif, là, hein, mais comment on arrive à associer les acteurs à une co-organisation des rapports entre activités de formation et activités de professionnels, sachant qu'ils vont continuer leur activité professionnelle au-delà de la formation, et ils vont continuer l'activité de formation en dehors de la formation. Et là, je promets, c'est la dernière. Alors, je voulais très rapidement décrit, mais le métier conçu comme un concept dynamique, hein, de développement qui est en perpétuelle évolution. Comment en formation on arrive à circuler entre ces instances? À quel moment on peut mobiliser et solliciter, susciter les dimensions personnelles? Vous voyez bien qu'avec l'usage de la vidéo, il y a une intensité forte. Comment on utilise l'instance interpersonnelle, mais aussi impersonnelle, le rappel aux prescriptions, hein, qu'est-ce qu'on attend de nous, mais comment on circule à travers cela et comment, par exemple, l'interpersonnel intervient. Il est fréquent que le transpersonnel, soit pas tout à fait explicite, pour le moins. Question qui a largement circulé dans cette formation, et j'ai bien entendu aussi ce matin, mais d'une certaine manière aussi à travers la question de la formation, c'est la confrontation entre les différents âges de l'expérience. Là, dans cette formation, on a confronté essentiellement les débutants entre eux. Parfois, par exemple dans Néopass, il y a une certaine confrontation entre les chevronnés et les débutants. Par contre, j'ai pour l'instant pas beaucoup vu encore utiliser en formation des confrontations entre chevronnés pour la formation des pour la formation. Voilà. Hein, c'était ça qui est. Enfin, je veux dire, c'était pour ouvrir un petit peu le champ des possibles, de ne pas en rester à reste. Mon avis aussi une question. Alors, par exemple, là, notre enseignante, si elle avait été au cours de sa formation, si elle avait participé ou observé deux enseignants chevronnés se batailler, discuter sur le réglage entre la pédagogie et la didactique, hein, pour faire vite, hein, puisque c'était le sujet, peut-être qu'elle aurait eu des éléments de compréhension de ce qu'elle faisait. Mais c'est pas automatique, hein. Dans quelle mesure ça participe de la formation? Point également important, c'est que je l'ai dit, l'activité est pas asituée. Là, on voit bien qu'elle est dans un collège particulier. Comment la formation ne s'adresse pas que à l'individu hors de l'établissement ou hors de sa discipline ou hors. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la formation des différents personnels qui contribuent à l'enseignement. Et dernier point qui est un peu redondant, mais qui formule différemment, tout compte fait, la matière, le contenu disciplinaire de la formation, quelle était-ce? C'est-à-dire que quand on forme à quoi? Et qu'est-ce que l'on fait quand on forme? Est-ce qu'on travaille sur les pratiques ou voir les bonnes pratiques ou alors sur l'activité de travail? Et il me semble que là il peut y avoir des débats qui sont qui circulent à travers les échanges qu'on a pu avoir, mais qui sont importants. Je vous remercie.